Bonjour Jean-David Morvan, vous êtes scénariste de bande dessinée et originaire de Reims. Vous avez créé une soixantaine de BD comme la série Sillage. Sillage, c'est une série de science-fiction avec des vaisseaux spatiaux qui cherchent à coloniser des planètes. Plus récemment, vous avez publié le premier tome de Madeleine Résistante. Il raconte l'histoire de Madeleine Riffaut, résistante pendant la Seconde Guerre mondiale.
Pour commencer, comment êtes-vous entré dans le monde de la BD ?
D'abord, je savais à peu près ce que vous aviez dit, vu que c'est moi qui les ai faits. Donc, j'étais au courant que j'étais né à Reims. J'étais au courant que j'y habite et que j'y suis en ce moment, d'ailleurs. Et c'est dingue, je savais tout ça. Bon, alors après, la petite différence, c'est que je n'ai pas écrit 60 albums, j'en ai écrit à peu près 250. Mais pour ce qui est de Madeleine Riffaut et tout le reste, oui, c'est vrai, je peux vous confirmer ça. Alors, comment je suis devenu scénariste de bande dessinée ? Quand j'étais plus jeune, quand j'étais au lycée, la seule chose que je voulais faire, c'était de la bande dessinée. Donc, j'étais un élève normal, quoi. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'était de dessiner des BD, d'inventer des BD. Alors, on faisait des fanzines. Des fanzines, c'était qu'on faisait des bandes dessinées amateurs. Donc, on créait de la BD qu'on publiait tous les 3 mois et qu'on essayait de vendre. Bon, ce n'était pas notre spécificité de les vendre. Mais en tout cas, ça nous a appris à faire de la BD. Donc après, pendant cette période-là, j'ai fait chier mes parents pendant presque 5 ans pour aller à Bruxelles, à l'école Saint-Luc. Et donc, quand j'ai eu mon bac, au bout de la deuxième fois, j'ai pu aller à Saint-Luc. Ils m'ont pris un appartement et je me suis retrouvé à Bruxelles. Et j'ai eu une grosse déconvenue parce que je trouvais que l'école était vraiment à chier. Donc, je m'engueulais avec les profs sans arrêt. Je n'avais pas envie de faire ce qu'ils me disaient. Nous, ils voulaient faire de nous des artistes, mais moi, je voulais faire de la BD en professionnel. J'avais quoi, 19 ans quand je suis arrivé. Et donc, j'ai voulu quitter cette école et je me suis dit que le meilleur moyen de quitter l'école sans avoir l'air trop con face à mes parents, c'était de devenir professionnel de la bande dessinée puisque l'école était censée me former à devenir un pro de la BD, quoi. Donc, en disant, à partir du moment où je serai professionnel, j'ai plus besoin d'aller à l'école. Donc, avec 3 copains, moi, je ne me sentais pas assez bon dessinateur à cette période. Avec 3 copains, on a monté des projets. Je leur ai inventé les histoires parce que je voulais absolument que ça aille vite. Donc, j'avais des histoires en tête, on les a créées. Je suis allé voir des éditeurs en fin d'année. Donc, je venais d'avoir 20 ans puisque je suis de la fin de l'année. Et à ce moment-là, vous auriez pu me dire, je suis du 28 novembre, mais bon, je le savais déjà. Et à ce moment-là, on a eu la chance qu'un éditeur a accepté de nous signer notre première BD qui s'appelait Reflet perdu avec Sylvain Savoyard. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Il y avait un deuxième projet qui a été refusé, mais l'éditeur aimait bien notre travail, donc il nous a demandé de faire autre chose. Et puis voilà, c'est comme ça que tout a commencé. On est devenu professionnel. J'ai pu quitter l'école Saint-Luc. Je voulais rester à Bruxelles, donc je suis resté finalement 3 mois à Saint-Luc. Et puis après, je suis allé à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. L'année d'après, puis là, je suis resté 15 jours. Donc voilà, j'ai un bac plus 3 mois et 15 jours, en gros. Ce qui fait de fameuses études. Mais au moins, j'ai fait mon métier. J'ai fait de la bande dessinée et c'était exactement ce que je voulais faire. Donc, ça tombait très bien.
Est-ce qu'il y a d'autres artistes dans votre famille ?
Non, dans ma famille, ils sont plutôt fans de voitures. Mon père, il était concessionnaire d'automobile. Mon frère, il adore ça aussi. Ils aiment les bateaux, tout ça, les trucs à moteur. Moi, je n'y connais rien du tout. Donc, je suis un gars qui fait de la BD, mais on ne sait pas d'où ça vient. En revanche, mes parents m'ont toujours soutenu dans le fait de faire ce que j'avais envie de faire. Ça m'a vachement aidé, notamment en me payant un appartement à Bruxelles, en acceptant que je fasse ces études-là. Voilà, c'était assez important, quoi. Je me suis quand même fait engueuler quand ils ont appris que j'avais arrêté d'aller aux Beaux-Arts de Bruxelles et que du coup, j'ai été obligé de faire mon service militaire. Vous, ça, vous n'avez pas à le faire, donc vous avez bien de la chance. Mais sinon, non, je ne connais pas d'autres artistes dans la famille.
Quelles sont les étapes pour créer une BD ?
Déjà, il faut avoir des idées. C'est un départ. Moi, je vais chercher mes idées dans ce que je lis, dans ce que je vois à la télé, dans ce que j'écoute à la radio, dans l'actualité, dans l'histoire, dans toutes sortes de choses comme ça. Mais après, avoir des idées, ça ne suffit pas. Il faut les mettre en œuvre, il faut les faire lire aux gens. Donc, il faut inventer des personnages, il faut inventer des situations. Quand j'ai une idée sur un concept quelconque, en fait, je crée des personnages qui ont un point de vue chacun différent sur le même sujet et j'essaye de les faire cohabiter ensemble pour essayer d'expliquer un peu, de faire comprendre mon idée de départ. Là, juste avant de vous avoir, je travaillais sur les, sur une BD pour les 75 ans de l'agence Magnum Photo, qui est une agence de photographie qui est née après la Seconde Guerre mondiale, avec des photographes comme Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, qui sont parmi les plus grands photoreporters du monde. Et donc là, c'est encore un boulot un peu différent. J'essaye d'aller chercher dans plein de livres différents, à peu près une vingtaine de livres différents, des anecdotes sur ces personnages-là, et d'essayer de confronter aussi les différentes versions dans les livres pour trouver celle qui est la plus juste, et de raconter une histoire vivante et vibrante de choses qui sont normalement que dans les livres d'histoire. Donc finalement, je pense que pour faire une bande dessinée, il faut faire vivre les choses aux lecteurs pour leur donner l'impression que l'histoire se déroule devant eux. Donc il ne faut pas hésiter de temps en temps à rajouter de la vie, des blagues, des choses pour ne pas donner l'impression en BD de faire une fiche Wikipédia hyper longue. C'est chiant, Wikipédia, c'est important, c'est intéressant, on apprend des trucs. Mais en BD, il faut qu'on soit un peu plus vivant, quoi. Il faut que les gens ils aient un caractère, ils réagissent bien selon ce caractère qu'on leur a défini au début, et c'est ça qui est intéressant finalement. Il faut caractériser les personnages. Voilà, c'est comme ça que je fais une BD.
En quoi consiste le travail d'un scénariste de bande dessinée au quotidien ?
À faire des scénarios de bande dessinée. C'est-à-dire, en fait, je me lève, je m'assieds dans mon canapé devant la télé avec mon ordinateur sur mes genoux, comme je suis là maintenant. Et puis je cherche de la documentation, j'écris des pages, j'écris des scènes. Je travaille pour que les gens qui vont lire mes BD ne s'emmerdent pas à les lire, parce que s'ils s'emmerdent, ils n'achèteront pas la suivante. Donc tout mon boulot, c'est ça, c'est d'être à la fois le gars qui écrit la BD et le mec, et de me mettre dans la peau du lecteur pour lui donner un bon rythme, qu'il n'est pas là, parce que moi, je lis aussi beaucoup de BD, et donc pour ne pas donner l'impression, pour faire attention à ce que le lecteur ne s'ennuie pas en lisant la BD, quoi. Voilà. C'est mon principal boulot. Donc, c'est à ça que je cherche tout le temps. Et puis, en regardant la télé, des fois, je tombe sur des documentaires ou des reportages qui me donnent d'autres idées aussi pour des albums après. Donc, ça, c'est cool.
D'où vient votre inspiration pour écrire vos scénarios ?
Je viens de le dire. À l'instant. De l'actualité, de tout ça. Il y a un truc marrant que je peux vous raconter. C'est justement le fait que je travaille devant la télé. Quand j'étais gamin, j'habite à Reims. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Reims, mais bon, même si vous y êtes déjà allé, il y a un truc que vous n'avez pas visité, c'est le canal de Reims, parce qu'on n'en a rien à foutre du canal de Reims, hein, il y a juste des péniches. Mais on était allé les visiter avec l'école en CM2, et j'avais visité une péniche, et j'avais été, pendant quelques jours, j'avais envie d'être marinier, c'est-à-dire le gars qui pilote, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot, tellement on doit se faire chier, mais qui pilote les péniches, quoi, qui conduit les péniches d'un endroit à l'autre, sur les canaux. Et j'avais été fasciné parce que le gars, il avait une télé devant sa barre pour conduire sa péniche, qui en dit long sur l'excitation hein, de ce métier, en fait. Et donc j'avais rêvé d'être marinier, parce que je trouvais ça fascinant de travailler en pouvant regarder la télé, quoi. Donc je trouvais ça génial. Et bon, finalement, je ne suis pas devenu marinier, mais je travaille toujours devant ma télé. Hein. Regardez, là, j'ai la télé devant moi, je suis en train de travailler. Donc voilà. Donc, ça reste pour moi hyper important. Je vous dis, j'ai le son très faible, et quand je vois un truc intéressant, je remets un peu de son, et ça me permet vraiment de réfléchir aux BD suivantes. Des fois, c'est l'actualité, des fois, c'est plein de choses. Donc voilà, la télé, pour moi, c'est quelque chose d'important. En général, après, c'est beaucoup de livres à lire, et puis voilà, c'est de là que vient l'aspect, et puis de la vie, en fait, de ce qu'on vit en permanence, des relations entre les gens, de plein de choses, de la vie, quoi.
Combien de temps vous mettez pour créer une BD ?
C'est assez indéfini, en fait. L'écriture même d'une BD, c'est paradoxalement pas très long. Je peux mettre pour écrire une BD, 15 jours, un mois, ça va assez vite. Mais l'écriture, ce n'est pas le plus important. Pour moi, l'écriture, c'est quelque chose qui n'est pas le plus excitant, parce que ce qui est intéressant pour moi, c'est d'imaginer une BD, de trouver les idées, de la conceptualiser. L'écriture, c'est la dernière phase, en fait. Si je sais exactement ce que je vais écrire, ça va vite. Le vrai problème vient quand on ne sait pas exactement ce qu'on doit écrire. Donc, je préfère garder les choses dans ma tête avant de les écrire le plus longtemps possible, pour pouvoir aller assez vite sur la phase de l'écriture. Si j'écris les BD, c'est pour les envoyer au dessinateur. Moi, je suis scénariste, donc par essence, je ne peux pas travailler tout seul. Je suis forcé de travailler avec quelqu'un. C'est pareil au cinéma. Quand on est scénariste, on travaille avec un réalisateur. Et donc, comme je ne peux pas transférer directement mes idées dans la tête des dessinateurs, bah, je suis bien obligé de les écrire. Mais c'est vrai que c'est aussi une phase où les choses deviennent concrètes. C'est-à-dire, tant que c'est dans la tête, tout paraît relativement parfait. Et quand on écrit, on commence vraiment à se confronter aux problèmes inhérents au scénario. Donc, c'est aussi une phase importante. Mais ce n'est pas ma préférée. Et vraiment, vraiment, ça peut aller très vite, quoi. Plus je sais ce que je vais faire avant, plus ça va vite.
Quelle est votre bande dessinée préférée parmi celles que vous avez écrites et dans celles des autres?
Dans celle des autres, il y en a plusieurs, mais si je prends un exemple, on va prendre BD, manga, comics américains. Donc, je pense qu'en BD, c'est une BD qui s'appelle Les Phalanges de l'Ordre Noir de Bilal, le dessinateur, et Pierre Christin, le scénario. Je trouve BD formidable sur les suites de la guerre d'Espagne. C'est une vieille BD, mais j'adore cette BD, le concept et tout ça. Alors, j'ai découvert des années après avoir commencé que Pierre Christin aussi regardait la télé en travaillant. Donc, je me suis senti un peu moins abruti, c'était pas mal. Ensuite, en comics américains, c'est difficile, mais je dirais le Dark Knight de Frank Miller, qui est une histoire de Batman quand il est vieux, qui est vachement bien, qui date fin des années 80. Et puis en manga peut-être Gum, qui est un manga dont ils ont tiré l'horrible film Alita. Il y a 2 ans, peut-être bien, mais que j'aime beaucoup au niveau du rythme et tout ça. Mais bon, en même temps, je lis beaucoup de BD, beaucoup de mangas, beaucoup de comics. Moi, j'appelle tout ça de la bande dessinée, hein. J'en lis vraiment beaucoup. Donc, voilà, mais ça, c'est des trucs que non seulement j'aime bien, mais qui m'ont inspiré quand j'ai commencé à bosser, quoi. Donc, c'est ça qui rajoute un peu de force à ces récits-là. De moi, c'est difficile à répondre parce que j'ai jamais. Tellement été forcé de faire une bande dessinée, donc j'ai fait que des choses que j'aimais bien ou que j'avais envie de faire en tout cas. Mais si je dois en choisir une aujourd'hui, évidemment, c'est Madeleine Résistante, parce que j'ai rencontré Madeleine, parce qu'elle est toujours vivante, elle a 97 ans, parce que ça fait 5 ans qu'on s'entend très bien et qu'on travaille ensemble et qu'il y a une relation là qui dépasse ma manière habituelle de faire une bande dessinée. Donc, je dirais celle-là, ouais.
Quel est votre créateur de BD préféré?
Il y en a plein dans les mangas, comme dans les comics américains, comme dans les BD franco-belges. Il y en a plein, c'est immense en fait. Je pense pas que je puisse dire que j'en ai vraiment un préféré. C'est vrai qu'en scénariste, quand même, Pierre Christin, Frank Miller, voilà, il y en a quand même pas mal, mais je suis assez influencé par tout ce que je lis depuis longtemps, quoi. Donc, je lis en moyenne entre 3 et 4 BD par jour. Donc, ça fait vraiment beaucoup de gens à célébrer, beaucoup de gens qui m'influencent, qui m'ont influencé et puis qui m'influencent encore. Il y en a vraiment beaucoup.
Combien avez-vous vendu d'albums?
Difficile à dire. J'ai sorti mon premier album en 93, donc ça va bientôt faire en mars, donc ça va bientôt faire 30 ans. C'est incroyable. Je ne sais pas, je dirais 3 millions, peut-être un truc comme ça. Je sais pas trop. Je calcule jamais, quoi. En France et à l'étranger, parce qu'on a eu beaucoup de traductions quand même avec Sillage, avec Madeleine, ça commence à bien tomber les traductions. Donc, ouais, à peu près ça, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, j'en sais trop rien en fait.
Dans combien de langues sont traduits vos ouvrages?
Difficile à dire, ils ne sont pas tous traduits de la même manière, mais Sillage, je pense que c'est presque 20 langues. Donc, je ne peux pas tous les lire d'ailleurs, hein. Il y a plein de trucs que je ne comprends pas, mais ouais, ça doit être ça à peu près.
Lequel vous a rapporté le plus d'argent?
Sillage, la série Sillage, qui est une série de science-fiction qui raconte l'histoire d'une humaine dans un convoi extraterrestre rempli d'extraterrestres. Je pense que c'est ça. Je pense que Madeleine va bientôt prendre le relais sur Sillage, va bientôt mieux se vendre. Mais c'est vrai que Sillage, on a 21 albums au total, donc je pense que c'est vraiment ce qui m'a rapporté le plus d'argent.
Vous détenez le record de 14 tomes de BD parus en une année. Vous n'étiez pas fatigué?
Bah d'abord, je n'étais pas au courant, donc merci de me donner cette information. Ensuite, comme quoi il y a des trucs qu'on ne sait pas sur soi-même. Hein. Ensuite, bah, fatigué, on s'en fout d'être fatigué. Ça n'a pas d'importance en fait. On peut dormir l'année d'après. Donc, non, mais en fait, quand les albums sont sortis, ça doit être cette année où j'ai dû sortir 27 albums, je crois, un truc dans le genre. Ça fait beaucoup quand même, c'est un peu exagéré. Mais ce n'est pas des albums que j'avais tous finis cette année-là. Il faut compter aussi toujours sur le retard des dessinateurs. Hein. Donc, il y a des albums qui sont sortis, mais que moi j'avais fini 2 ou 3 ans avant, mais il fallait que les dessinateurs les terminent eux, et donc voilà, c'est tombé comme ça. Donc voilà, c'était rigolo, mais c'était trop. Donc voilà, enfin, en même temps, ça ne veut pas dire que je ne recommencerai pas. Hein. Si j'ai l'opportunité, je le ferai, même si je trouve que c'est trop. Parce que ce qui m'intéresse, c'est d'inventer les histoires. Donc, si les éditeurs me disent oui, tu as le droit de faire cette BD, alors je saute sur l'occasion. Mais c'est vrai que je ne compte jamais le nombre d'albums que j'ai fait dans l'année en général. C'est comme mes chiffres de vente, c'est comme l'argent que j'ai gagné ou le nombre de traductions. C'est vraiment des choses que je ne regarde jamais, quoi. Parce que quand les albums y sortent, je les ai finis tous au moins depuis 5, 6 mois, donc je suis déjà tout à fait dans autre chose, j'y pense plus en fait.
Comment vous résumeriez la série Sillage?
C'est l'histoire d'une jeune fille humaine qui vit sur un convoi où il y a uniquement des extraterrestres. Ouais, en gros, pour simplifier, c'est intéressant parce que c'est un convoi de colonisation et j'allais dire Madeleine, mais c'est pas par hasard. Mais Névis est complètement anticolonialiste. Elle travaille pour le convoi alors qu'en fait elle est contre les règles, etc. Donc voilà, c'est intéressant. C'est l'histoire d'un être humain qui est seul sur un convoi et qui doit essayer de définir ce que c'est, de se montrer à la hauteur, on va dire, de l'espèce humaine sans savoir qui sont les humains. Donc elle a un très haut degré d'amour pour les êtres humains dont elle ferait partie, mais sauf qu'elle ne sait pas qui ils sont. Donc elle essaye de se montrer à la hauteur. On se rend compte que les êtres humains sont pas toujours aussi brillants que ce qu'elle imagine qu'ils sont, puisqu'elle les connaît pas. Donc c'est ça, en fait, vraiment ce qui est intéressant, je pense, dans la série, c'est comment on peut idéaliser quelque chose et essayer d'être à la hauteur et finalement surpasser ce qu'on croit être notre Dieu, entre guillemets, aller plus loin. Donc voilà, c'est un peu conceptuel, mais on le voit pas forcément dans la BD. Si on lit la BD, on peut ne voir que des poursuites de vaisseaux spatiaux et des coups de flingue, mais il y a surtout ça à l'intérieur. C'est ça qui, moi, me donne envie de raconter ces histoires.
Comment vous est venue l'idée de départ de la série?
De sillage, en fait, moi, je faisais déjà de la science-fiction, mais je faisais surtout du cyberpunk. Le cyberpunk, c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. C'est l'omnipotence des sociétés à la place des gouvernements, c'est les réseaux Internet, etc. Donc, ça, c'est le cyberpunk. Quelque chose de plus sombre. Et Delcourt, notre éditeur, vu qu'on ne réussissait pas à faire de projet avec Philippe Bucher, le dessinateur, depuis un an et qu'on était dans la merde, est venu nous chercher et nous a demandé si on voulait faire du space opéra. Donc, space opéra, c'est comme Star Wars, Star Trek, avec des vaisseaux spatiaux, on va de planète en planète, etc. Donc, on s'est dit, OK, on va le faire. Et il fallait qu'on trouve une idée. Moi, j'avais ce mot sillage qui me traînait depuis longtemps dans la tête. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Et je voulais en faire quelque chose et on s'est dit Space Opera, sillage, ça pourrait être un grand convoi dans l'espace, je voyais bien ça. Et je me suis dit, bah, je ne peux pas en faire un convoi avec des humains, sinon ça va ressembler à Galactica. Pas si vous voyez ce que c'est Galactica, il y a eu plusieurs séries. Et donc, nous, c'était la vieille série. Donc on s'est dit, il faut trouver autre chose. Donc on va mettre que des extraterrestres. Et puis du coup, pour que ce soit marrant, on va mettre un être humain à l'intérieur. Donc au début, on avait imaginé une espèce de vampire psychique qui avait un pouvoir spécial de prendre les âmes de ses victimes dans son cerveau. Donc, c'était assez sombre. Et puis, on a trouvé au bout d'un moment que c'était trop sombre parce que le space opéra, ça fonctionne que si c'est un peu marrant, à mon avis, parce que c'est tellement pas crédible. En fait, la manière de plein d'espèces différentes de vivre ensemble, c'est qu'il fallait qu'il y ait un second degré. Donc, on a décidé de faire un peu plus second degré et on s'est dit, bah, en fait, ils vont récupérer un humain dans une planète de jungle. Parce qu'il fallait trouver comment récupérer un humain qui soit pas vraiment au courant de ce que sont les autres humains. Donc on a fait ça. Puis on s'est dit si on prend un garçon, ça fera comme Mowgli ou ça fera comme Tarzan. Donc ça va pas. Donc on va prendre une fille. Et voilà. En fait, ça s'est fait tout un peu à la. On a tout pris un peu ce qui n'existait pas, mais pris à l'envers les choses qui existaient. On va le dire comme ça. Et c'est né comme ça. Et puis après. En parlant d'être à l'envers, on raconte finalement dans le premier tome de Sillage. Une histoire assez intéressante d'un monsieur, on va l'appeler comme ça, qui arrive, qui vient essayer de sauver son peuple en changeant une planète pour que son peuple entier puisse survivre et qui tombe sur une jeune fille qui veut l'empêcher parce qu'elle est bien sur cette planète et qu'elle se rend compte que le mec, il va complètement changer la planète, la réchauffer pour que les gens la réchauffent déjà, vous voyez. Et ça, c'était en 98, pour que son peuple puisse vivre dessus. Et en fait, c'est intéressant parce que selon l'angle dont on regarde l'histoire, en fait, les deux sont des héros. Même le méchant est un héros pour son peuple. Il essaye de sauver son peuple. Si on avait mis le héros comme un beau gars un peu classe et que Nevis, l'héroïne de Sillage, était par exemple une araignée géante qui essaye d'attaquer le truc, en fait, on aurait eu une histoire complètement inversée. Et le fait, on aurait pensé que le gentil, c'était le méchant de Sillage et que le méchant, c'était la gentille. En fait, on peut renverser les rôles des deux côtés. Et donc Nevis, en faisant une petite jeune fille sympathique, en fait, on a fait du méchant habituel des films américains, en gros, pour simplifier, la gentille. Et c'est ça qui était marrant. Et voilà, donc c'est comme ça que c'est né, toujours en prenant les classiques, on va dire, de la science-fiction dans l'autre sens.
Quel est le rapport entre Sillage et la vie réelle ?
Il est total. Je pense qu'on ne raconte jamais une BD de science-fiction comme une BD historique ne raconte jamais le futur, en fait. Elle raconte toujours le présent. On utilise le présent pour raconter le futur, mais c'est normal puisqu'on ne sait pas comment était le futur. Comment sera le futur. Et de la même manière, on ne sait pas tellement comment était l'histoire. Donc, on réinvente toujours l'histoire en fonction du présent parce que c'est les sujets du présent qui nous intéressent. Donc, si on regarde, par exemple, les films des années 1950, comme le Robin des Bois avec Errol Flynn ou des trucs comme ça, c'est un Moyen-Âge qui n'est plus du tout le Moyen-Âge qu'on imagine aujourd'hui parce que les préoccupations ont changé. Je voyais hier à la télé une série de reportages sur qui s'appelle Histoire et climat, comment le climat a influencé l'histoire. C'est vraiment pas le genre de documentaire qu'on aurait lu il y a 20 ans ou alors il y a 30 ans. C'est-à-dire que on s'intéresse au climat parce que c'est une préoccupation actuelle et on essaye. Et du coup, comme ça nous importe, en fait, on va chercher dans le passé ou dans le futur des histoires qui pourraient parler du climat. Pendant très longtemps, le post-apocalyptique, c'est-à-dire ce qui se passe après l'écroulement de notre société, ces histoires-là, elles venaient soit de la bombe atomique, soit d'une comète. Aujourd'hui, elles viennent du changement climatique. Eh ben, c'est bien la preuve que, en fait, la science-fiction, on ne raconte que le présent. Voilà, peut-être une fois qu'on sera sorti des problèmes climatiques et qu'il y aura d'autres problèmes, eh ben, on parlera d'autres choses. Comme il y a eu des BD sur les confinements, il n'y en avait pas eu tellement avant, puisque les confinements n'existaient pas. Donc, c'est total, ça ne parle que du présent, en fait. Ça parle de démocratie, l'assemblée qui gère le convoi Sillage, c'est comme l'ONU, elle s'appelle la constituante. C'est pas un hasard, ça parle de tout ça, ouais. Ça a l'air de parler de science-fiction, mais ça parle pas de science-fiction.
Y a-t-il une fin prévue à la série Sillage ?
Oui, au tome 30, on la connaît, mais je peux pas dire ce que c'est, évidemment.
Quel est votre personnage préféré dans la série ?
Ouais, c'est Nevis quand même, c'est l'héroïne, je pense. Parce que justement, elle est naïve, elle est chiante, elle change, elle évolue. Voilà, c'est Nevis, quoi. Ouais.
Quelle est la période historique qui vous intéresse le plus ?
Toutes les périodes historiques m'intéressent, vraiment. Il n'y a pas de... J'ai pas de préféré, en fait. Je pense qu'à partir du moment où, justement, on peut s'en servir pour parler du présent ou mieux comprendre ou mieux expliquer, toutes les périodes sont intéressantes. Après, il y a des périodes qui sont pratiques, comme la Seconde Guerre mondiale. C'est pratique parce que tout le monde connaît à peu près ce que c'est que la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas à réexpliquer, quoi. Dès qu'on voit un nazi, on sait quand même que c'est lui le méchant. Ouais, ça simplifie quand même les choses. On n'a pas besoin de mettre un gros background pour expliquer qui est le méchant. Ce serait différent si je vous parle de la guerre des bourgs. Vous savez peut-être même pas ce que c'est, mais voilà, c'est une guerre en Afrique du Sud. Voilà, bah là, il faudra réexpliquer tout le contexte. Et c'est plus complexe. La Seconde Guerre mondiale, d'une certaine manière, c'est assez c'est pratique. Ça fait gagner des pages. Voilà. Mais sinon, potentiellement, tout m'intéresse. J'ai fait des BD sur la Révolution, la Première Guerre mondiale, plein de périodes différentes. Elles sont toutes intéressantes. Ouais.
Parlez-nous de la personne qui vous a inspiré l'album Madeleine Résistante. Vous avez dit qu'elle est comme le personnage principal de la série Sillage. Comment vous en êtes-vous rendu compte ?
Eh ben, euh, à ta grande surprise, la personnage principale de Madeleine Résistante s'appelle Madeleine et c'était une résistante. C'est dingue. Mais aujourd'hui, elle est toujours résistante, elle est toujours vivante, elle a 97 ans. La dernière fois que je l'ai vue, c'était jeudi matin, à 6h du matin, parce que j'avais passé 3 jours chez elle. Elle est assez en forme, elle nous raconte toute sa vie. Elle a été résistante pendant la guerre activement, mais elle a continué à être résistante après, puisqu'elle était, grand reporter de guerre au Vietnam, en Algérie, et dans, entre autres au Congo. Et donc, elle a vécu cette vie-là. Et en fait, c'est vraiment le même personnage que Nevis, quoi. C'est le même caractère, c'est le même engagement, c'est la même capacité à aider les gens et en même temps parfois à se tromper, mais à savoir revenir sur ses convictions quand elle se rend compte que des gens les utilisent mal. C'est vraiment ça. Je ne sais pas tellement quand je m'en suis rendu compte, mais un jour, ça m'a sauté aux yeux, quoi, de me rendre compte que si j'avais voulu contacter cette Madeleine que j'avais vue dans un reportage, dans un documentaire à la télé, justement, quand j'étais dans mon canapé, c'est justement qu'elle avait pour moi... Elle était la personnification du personnage Nevis que j'avais inventé 20 ans avant, alors que Madeleine, elle avait été inventée en 1924, bien longtemps avant, quand elle est née. Donc voilà, c'est un miracle de rencontrer ce genre de personne, parce qu'elle a toute une vie à raconter et des choses passionnantes. Et en plus, elle correspondait exactement à ce que j'avais voulu faire avec Nevis. Donc c'était incroyable.
Qu'avez-vous ressenti quand vous avez reçu le prix René Goscinny avec Madeleine Riffaut ?
Eh bien, j'étais content quand même. Hein, ça fait plaisir de recevoir un prix à Angoulême. Donc, c'est bien. C'était particulièrement bien de l'avoir reçu, avec elle. La seule petite chose qui m'embête, c'est que moi, j'ai mis 30 piges à réussir à l'avoir et qu'elle, elle l'a eu dès son premier album, quoi. Ça, c'est un peu dégueulasse. Mais à part ça, j'étais content, hein. C'était une blague évidemment. Donc, ça m'a fait vachement plaisir. Elle est devenue scénariste à 97 ans moins 3 jours, donc 96. C'est aussi un record quand même, ça arrive assez rarement. Donc, je crois que c'est jamais arrivé d'ailleurs. Donc, avoir ce prix-là, c'était carrément cool. C'est quand même un prix qui récompense un scénariste par an. Bon, là, on était deux, mais c'est vrai qu'on fait le boulot ensemble. C'est assez rare, c'est flatteur, on va dire. Moi, je suis pas très soluble dans la flatterie en général, mais j'étais quand même très content de l'avoir, surtout avec Madeleine. Et puis c'est une reconnaissance sympathique, voilà.
Pourquoi avoir choisi Madeleine comme héroïne ?
Parce que j'ai rencontré Madeleine principalement. Hein. Ça aurait été bizarre que j'écoute l'histoire de Madeleine et que je choisisse quelqu'un d'autre, tu vois. Donc, en fait, on fait relativement avec Madeleine sa biographie, même son autobiographie. Je pense avec Dominique, le dessinateur, on est un peu les outils qui manquent à Madeleine pour faire son autobiographie. Aujourd'hui, elle est aveugle, donc elle peut plus vraiment écrire. C'est difficile. Elle peut dessiner. Elle a jamais vraiment dessiné. Elle peignait un peu, mais pas vraiment. Donc en fait, nous, on se considère un peu avec Dominique comme des outils. Donc, pour faire son autobiographie la plus précise possible. Et c'est intéressant comme position d'auteur de faire ça. Et c'est toujours fascinant. Là, on a relu entièrement le scénario du tome 2 avec Madeleine. Elle a apporté des corrections et tout. Donc, c'était génial. On a commencé le tome 3. C'est un boulot passionnant. Mais c'est bien de le faire tant qu'elle est encore là. On a de la chance.
Quels sont vos projets en cours ?
Eh bien, j'en ai plein, mais je n'avais pas trop le temps de les faire, donc il va justement falloir que je commence à faire une liste de tout ce que j'ai à écrire. Donc, c'est une bonne question. Et en ce moment-là, il faut absolument que je finisse le bouquin dont je vous ai parlé sur l'agence Magnum Photo. Il ne me reste qu'une vingtaine de pages à faire, je pense. Parce que le bouquin, il doit sortir à la fin de l'année, vu que c'est les 75 ans de Magnum cette année, on ne peut pas rater le coche, quoi. Mais les dessinateurs, ils travaillent comme des fous pour réussir à finir le bouquin. Donc voilà, ça va être ma priorité. Puis après, j'ai plein d'autres trucs à faire. Je fais une adaptation de roman japonais. Je raconte la vie d'un sumotori catcher coréen. Enfin, vraiment plein de trucs différents, justement. J'essaye vraiment de m'intéresser à plein de choses pour pas m'emmerder, en fait. Ce qui me ferait chier dans ce métier-là, c'est de m'emmerder. Si c'est pour faire ce métier, pour faire toujours la même chose, c'est insupportable. Donc l'idée, c'est d'essayer vraiment de varier les plaisirs, on va dire. Là, je vais refaire une BD qui s'appelle Horde, que j'ai créée en 1993. Elle ressortira presque 30 ans après dans une nouvelle version. Ça me plaît bien. Par exemple, je n'étais pas encore assez mature pour la faire. Aujourd'hui, peut-être un peu plus. Donc voilà, c'est plein de projets comme ça.
Est-ce qu'on peut vous retrouver bientôt en festival?
Ouais. J'ai accepté un peu trop de festivals ces derniers temps. Donc, ça m'a empêché de travailler. C'est pour ça que je ne suis pas venu vous voir, d'ailleurs, parce que je vais prendre chaque journée que je peux prendre pour moi pour travailler. Je suis très en retard sur à peu près tous les boulots et je ne peux pas vraiment le permettre. Mais je serai au Festival d'Amiens, ça doit être tout début juin. Je serai après au Festival de Lyon BD et puis d'autres. Après, c'est trop loin, mais j'en ai plusieurs de prévus. Et puis l'année prochaine à Angoulême, bien sûr.
Est-ce qu'on peut retrouver vos actualités sur Internet ?
Sur ma page Facebook, c'est là que je mets le plus de trucs, je pense. Enfin, sur mon profil Facebook. Et je mets tout en visible par tout le monde, quoi. Il n'y a jamais rien de caché. Donc, ouais, on peut tout voir sur Facebook. Enfin, tout. Restons sérieux tout de même.
Merci Jean-David Morvan d'avoir répondu à nos questions.
Ben, merci à vous, les garçons.
C'était Tom, Raphaël, Cyprien, Ronan, Jason et Timothée. Nous sommes des élèves de seconde pro nature, jardin, paysage, forêt de l'Institut Charles-Quentin de Pierrefonds dans l'Oise. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Au revoir.
Venez nous retrouver à l'Institut Charles-Quentin le 11 juin, date de notre journée porte ouverte, de 10h à 17h.